Ivanhoé, chapitre 7. Suivis de leurs nombreux écuyers, les chevaliers s'avancent avec un magnifique appareil. L'on porte le haubert, un autre tient la lance. Un troisième vient, le bras armé du bouclier resplendissant. Le coursier frappe la terre d'un pied impatient et ronge son frein d'or qu'il couvre d'écume. Les forgerons et les armuriers se présentent sur leurs palefrois, des limes en main et des marteaux à leur ceinture, avec des clous pour réparer les épieux brisés et des courroies pour rattacher les boucliers. Une milice à cheval borde les rues, et la foule accourt, le bras chargé d'un pesant gourdin. Dridon, Palémon et Arcite. La condition du peuple anglais à cette époque était fort malheureuse. Le roi Richard était absent, détenu prisonnier et au pouvoir du perfide et cruel duc d'Autriche. Le lieu même de sa captivité restait ignoré, et son sort n'était qu'imparfaitement connu de la généralité de ses sujets, livrés à toute espèce d'oppression subalterne. Le prince Jean, ligué avec Philippe de France, ennemi mortel de Richard, usait de toute son influence auprès du duc d'Autriche pour prolonger la captivité de son frère Richard, auquel il était redevable de nombreux bienfaits. Pendant ce temps, il fortifiait son parti dans le royaume, dont il se proposait, la mort du roi arrivant, de disputer la succession au légitime héritier Arthur, duc de Bretagne, fils de Geoffroy Plantagenet, frère aîné de Jean. Cette usurpation, on le sait, fut effectuée par la suite. D'un caractère léger, licencieux et perfide, Jean attacha aisément à sa personne et à son parti non seulement tous ceux qui avaient des raisons de craindre le ressentiment de Richard pour leur conduite en son absence, mais encore cette classe nombreuse d'hommes pour lesquels il semblerait qu'il n'existe pas de loi, qui, au retour des croisades, avaient rapporté dans leur patrie les vices de l'Orient, la misère, un cœur endurci, et dont les espérances de fortune reposaient sur une commotion intérieure et une guerre civile. À ces causes de détresse publique et d'inquiétude, il faut ajouter cette foule de proscrits ou d'outlaws qui, réduits au désespoir par l'oppression de la noblesse féodale et par la sévérité des lois sur les forêts, s'étaient réunis en troupes nombreuses, s'emparant des bois et des terres vagues ou abandonnées, où ils bravaient les lois et l'autorité des magistrats. Les nobles, eux-mêmes, fortifiés dans leurs châteaux où ils jouaient le rôle de petits souverains, étaient les chefs de bandes non moins contentrices des lois et non moins oppressives que les déprédateurs avoués. Pour entretenir les troupes qui faisaient leur force et soutenir le luxe extravagant qu'ils affichaient, ces nobles empruntaient de grandes sommes d'argent aux Juifs, à un énorme intérêt. Mais ces intérêts usuraires dévoraient leurs revenus, et ils ne trouvaient d'autre remède à cette plaie profonde que les actes de violence qu'ils exerçaient sur leurs créanciers quand ils en trouvaient l'occasion. Sous les fardeaux variés qu'un tel état de choses faisait peser sur lui, le peuple anglais souffrait le présent et ne craignait pas moins pour l'avenir. Cette fâcheuse position fut encore empirée par une maladie contagieuse qui se répandit dans le pays, et que la malpropreté, la mauvaise nourriture, les habitudes, les habitations malsaines des classes inférieures rendirent bien plus malfaisantes encore. Un grand nombre succombait, et les survivants étaient tentés de leur envier un sort qui les mettait du moins à l'abri des nouveaux malheurs dont eux-mêmes étaient menacés. Cependant, au milieu de ces calamités réunies, le pauvre comme le riche, le peuple comme la noblesse, prenaient au tournoi qui allait s'ouvrir et qui était le grand spectacle de cet an un aussi vif intérêt que le bourgeois affamé de Madrid a coutume d'en prendre à un combat de taureaux, qui lui fait oublier s'il aura de quoi manger le soir. Ni les devoirs à remplir, ni la faiblesse, ni les infirmités n'empêchaient jeunes et vieux d'accourir à ces fêtes pompeuses. La passe d'armes, comme on l'appelait, qui allait avoir lieu à Ashby dans le comté de Leicester, devait réunir les champions de la plus haute renommée, en présence du prince Jean lui-même, présence qui devait ajouter encore à la magnificence du spectacle. Un immense concours de personnes de tout rang et de toutes conditions s'était donc dirigé avec empressement, dès le matin, au lieu désigné pour le tournoi. Ce lieu était singulièrement pittoresque. Sur la lisière d'un bois, à un mile de la ville d'Ashby, se déployait une vaste prairie couverte du plus beau gazon, bornée d'un côté par la forêt et de l'autre par de grands chênes isolés dont quelques-uns étaient d'une grosseur énorme. Le sol, comme disposé à dessein pour le jeu martial qui allait s'ouvrir, s'abaissait insensiblement de deux côtés, puis formait un plan uni d'un quart de mile en longueur et de la moitié en largeur. Cet espace avait été entouré de fortes palissades. Il était carré. Seulement, on en avait arrondi les angles pour la commodité des spectateurs. Aux extrémités nord et sud de la lisse, on avait laissé, pour donner passage aux combattants, deux entrées fermées par deux grosses portes en bois, chacune assez large pour que deux cavaliers puissent y passer de front. À chacune de ces portes se tenaient deux héros, escortés de 6 trompettes, d'un même nombre de poursuivants d'armes, d'un fort détachement de troupes destiné à maintenir le bon ordre, en même temps qu'à s'assurer de la qualité des chevaliers qui se proposaient d'entrer en lice. Derrière l'entrée méridionale, sur une plateforme produite par l'élévation naturelle du terrain, se voyaient 5 magnifiques pavillons ornés de panonceaux rouges et noirs, couleur choisie par les 5 chevaliers tenants, et dont les cordages étaient de même couleur. Devant chaque pavillon était suspendu le bouclier du chevalier par lequel il était occupé, et à côté se tenait son écuyer, déguisé en sauvage ou en habitant des forêts, ou revêtu de tout autre costume fantastique, suivant le goût de son maître et le caractère qu'il lui avait plu de prendre pour la durée de la passe d'armes. Le pavillon central, comme place d'honneur, avait été assigné à Brian de Boisguilbert, que sa renommée dans les combats, non moins que sa liaison avec les chevaliers qui avaient conçu le projet de cette joute, avait fait accueillir avec empressement dans la compagnie des tenants, qu'il avait même choisi pour chef. D'un côté de sa tente était celle de Réginald Front de Bœuf et de Philippe de Malvoisin. De l'autre, on voyait le pavillon de Hugues de Grandménil, noble baron du voisinage, dont l'aïeul avait été lord grand-maître d'Angleterre au temps de Guillaume le Conquérant et de son fils Guillaume le Roux. Ralph de Vipon, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, qui possédait d'anciens domaines à Heather, près d'Ashby de la Zouche, occupait le 5e pavillon. Un passage de 30 pieds de large menait à la plateforme sur laquelle était dressée cette tente. Il était fortement garanti par une palissade de chaque côté, de la même manière que l'était l'esplanade qui s'étendait devant les pavillons, et gardée par des hommes d'armes. L'entrée septentrionale était disposée de la même manière, et aboutissait à un espace fermé qu'on réservait aux chevaliers qui voudraient figurer comme assaillants. Derrière cet espace étaient placées des tentes sous lesquelles on avait préparé des rafraîchissements de tout genre. D'autres encore étaient destinées aux armuriers, aux maréchaux ferrants et autres artisans dont les secours pouvaient devenir nécessaires. L'extérieur de l'arène était en partie occupé par des galeries temporaires garnies de tapisseries et de tapis, et où se trouvaient des sièges et des coussins pour les dames et les seigneurs qui devaient assister au tournoi. Un espace étroit entre les galeries et la lisse était affecté aux yeomen et aux spectateurs d'une classe un peu au-dessus du vulgaire. Ils pouvaient se comparer au parterre d'un théâtre. La multitude occupait les larges tertres de gazon préparés pour elle, d'où l'élévation naturelle du terrain lui permettait de voir par-dessus les galeries. Outre les avantages que présentait cette disposition, des centaines de curieux se tenaient perchés sur les branches des arbres qui entouraient le préau. Et même le clocher de l'église paroissiale, situé à quelque distance, était chargé de spectateurs avides de voir les joutes. Pour compléter la description générale, il ne reste plus qu'à parler d'une galerie placée au centre, du côté de l'Orient. Elle était un peu plus élevée que les autres, plus richement décorée, et offrait une espèce de trône et de dais sur lequel étaient brodées les armoiries d'Angleterre. Des écuyers, des pages et des archers en superbe livrée veillaient autour de cette place d'honneur, destinée au prince Jean et à sa suite. À l'occident, c'est-à-dire en face de cette galerie royale, il y en avait une autre de même hauteur, décorée avec plus d'élégance, mais moins de somptuosité peut-être. Une suite de pages et de jeunes filles, la plus belle que l'on eût pu réunir, revêtues de costumes de fantaisie rose et vert, environnait un trône paré de même couleur. Les panonceaux et les étendards qui flottaient au-dessus du dais étaient ornés de cœurs blessés, de cœurs enflammés, de carquois et de flèches. En un mot, de tous les emblèmes ordinaires des triomphes de l'amour. Et une inscription annonçait que cette place d'honneur était réservée à la reine de la beauté et des amours. Mais qui devait être cette reine? C'est ce qu'on ne pouvait dire encore. Cependant, les spectateurs de toute classe se précipitaient à l'envi vers leurs places respectives, et cet empressement occasionna des querelles que les hommes d'armes eurent de la peine à apaiser. La plupart de ces contestations furent jugées par eux sans cérémonie, et les manches de leurs haches d'armes, le pommeau de leurs épées, devenaient des arguments irrésistibles contre les récalcitrants. Les personnes d'un rang plus élevé étaient jugées par les héros d'armes ou par les deux maréchaux du tournoi, Guillaume de Wiville et Étienne de Martival, qui, armés de pied en cap, couraient à cheval d'un bout à l'autre de la lice pour maintenir le bon ordre. Peu à peu, les galeries se remplirent de chevaliers et de nobles en costume de ville, c'est-à-dire vêtus de manteaux longs et richement teints, qui contrastaient avec la parure splendide et riante des dames, lesquelles, en plus grand nombre que les hommes, avaient voulu être témoins d'un divertissement qu'on aurait pu croire trop sanglant et trop dangereux pour qu'elles dussent y prendre quelque plaisir. L'espace intérieur, et moins élevé, fut bientôt rempli par les yeomen les plus riches, par les bourgeois et les nobles d'un rang inférieur qui, par modestie, par pauvreté ou par des titres peu solides, n'osaient s'asseoir à une place plus élevée. Ce fut parmi eux que s'élevèrent le plus de querelles au sujet de la préséance. « Chien de mécréant !» dit un vieillard, dont la tunique usée trahissait l'indigence, tandis que son épée, sa dague et sa chaîne d'or annonçaient ses prétentions à un rang élevé. « Enfant d'une louve ! Oses-tu bien toucher un chrétien, un gentilhomme normand du sang de Montdidier ?» Cette rude apostrophe ne s'adressait à personne autre qu'à notre connaissance Isaac, lequel, richement et même magnifiquement enveloppé dans une tunique ornée de dentelles et de fourrures, essayait d'arriver jusqu'au premier rang de la galerie pour y placer sa fille, la belle Rebecca, qu'il avait rejointe à Ashby et qui tenait le bras de son père non sans être effrayé du déplaisir que semblait généralement exciter sa prétention. Mais celui-ci, quoique nous l'ayons vu assez timide en d'autres occasions, savait bien qu'ici il n'avait rien à craindre. Ce n'était pas dans un tel endroit où tous les rangs étaient réunis qu'un noble avide et méchant eût osé l'insulter. En de telles conjectures, les Juifs étaient sous la protection de la loi générale. Et si elle n'était qu'une faible garantie, il arrivait parfois que quelques barons, par des motifs d'intérêt personnel, se montraient disposés à prendre leur défense. Dans la circonstance présente, Isaac avait plus de motifs de sécurité que de coutume, car il savait que le prince Jean était occupé à négocier un emprunt considérable avec les Juifs d'York. Emprunt qui devait être garanti par un dépôt de joyaux et assuré sur des domaines. Isaac devait en fournir une portion considérable, et l'extrême désir qu'avait le prince d'arriver à une conclusion assurait à l'Israélite un appui obligé. Enhardi par ces considérations, le juif persista et coudoya le chrétien normand sans respect pour son origine, son rang ou sa religion. Les plaintes du vieux gentilhomme excitèrent l'indignation de ses voisins. L'un d'eux, archer robuste et vêtu d'un habit de drap vert de Lincoln, portant 12 flèches à sa ceinture, avec un baudrier et une plaque d'argent, et tenant en main un arc de 6 pieds de long, se tourna tout à coup et, montrant au juif un visage que l'action continuelle du soleil avait rendu aussi brun qu'une noisette, mais alors rouge de colère, il l'avertit de se rappeler que toute la richesse qu'il avait acquise en suçant la substance de ses malheureuses victimes n'avait servi qu'à le gonfler comme une grosse araignée qu'on peut oublier tandis qu'elle se tient dans un coin, mais qu'on écrase dès qu'elle se montre à la lumière. Cette menace, prononcée d'une voix ferme et d'un air résolu en anglo-normand, fit reculer le juif, et il se fut probablement retiré d'un voisinage si dangereux, si en ce moment l'attention générale ne se fût dirigée vers le prince Jean, qui entrait dans la lice, suivi d'une escorte nombreuse, formée en partie de laïcs, en partie d'ecclésiastiques, aussi élégants dans leur mise et aussi décidés dans leur démarche que les autres courtisans. Parmi les derniers se trouvait le prieur de Jorvaux, aussi richement vêtu que pouvait l'être un dignitaire de l'église. L'or et les riches fourrures n'avaient pas été épargnés dans son ajustement, et les pointes de ses bottes, exagérant la mode du temps, remontaient si haut qu'elles auraient pu être attachées non seulement à ses genoux, mais à sa ceinture, ce qui l'empêchait de placer son pied dans l'étrier. Ceci, néanmoins, était un léger inconvénient pour le galant abbé, qui peut-être n'était pas fâché d'avoir l'occasion de déployer son habileté en équitation devant un grand nombre de spectateurs, et surtout devant les dames. Le reste de la suite du prince se composait des chefs privilégiés de cette troupe mercenaire, de barons maraudeurs, de courtisans dépravés qui l'entouraient sans cesse, ainsi que de plusieurs chevaliers du Temple et de saint Jean de Jérusalem. Il faut remarquer ici que les chevaliers de ces deux ordres étaient regardés comme ennemis du roi Richard, s'étant rangés du parti de Philippe de France dans la longue suite de querelles qui eurent lieu entre ce monarque et le prince anglais. C'était une chose notoire que ces brouilleries avaient eu pour résultat de rendre infructueuses les victoires répétées de Richard Cœur de Lion, qui échoua dans cette tentative audacieuse et romanesque pour s'emparer de Jérusalem, et qui, de toute sa gloire, ne tira d'autre avantage qu'une trêve douteuse avec le sultan Saladin. Avec la même politique qui avait présidé à la conduite de leurs frères dans la Terre Sainte, les Templiers et les Hospitaliers anglais et normands s'étaient unis à la faction du prince Jean, ayant peu de motifs de désirer le retour de Richard en Angleterre, ou l'avènement d'Arthur, son légitime héritier. Par une raison contraire, le prince Jean haïssait et méprisait le peu d'illustres Saxons qui existaient encore en Angleterre, et ne négligeait aucune occasion de les mortifier et de les injurier, sachant que sa personne et ses prétentions leur étaient antipathiques, ainsi qu'à la plus grande partie des hommes des communes, qui craignaient de plus grandes innovations et de nouveaux attentats sur leurs droits et leurs libertés, de la part d'un prince licencieux et despote. Dans ce brillant appareil, monté sur un superbe coursier, vêtu d'un habit de soie cramoisie brodé en or, portant un faucon sur le poing et la tête couverte d'un riche bonnet en fourrure, orné d'un cercle de pierres précieuses, d'où ses longs cheveux bouclés descendaient jusque sur ses épaules, le prince Jean s'avançait en caracolant dans la lice, à la tête de son joyeux cortège, riant à haute voix, et regardant avec la hardiesse d'un roi les différentes beautés qui étalaient leur charme dans les galeries supérieures. Ceux même qui remarquaient dans la contenance du prince une audace dissolue, mêlée à une extrême hauteur et à une indifférence totale pour l'opinion des autres, ne pouvaient cependant lui refuser une sorte de noblesse, qui est le propre d'une physionomie ouverte, favorisée par la nature, façonnée par l'usage aux règles de la courtoisie, mais non assez toutefois pour cacher entièrement la profonde dépravation et les vils penchants du cœur. Une pareille expression est souvent prise pour une mâle franchise, lorsqu'en réalité elle ne provient que de l'indifférence mal cachée d'une âme corrompue qui compte sur la supériorité de la naissance et de la fortune, peu soucieuse d'y joindre les avantages qui résultent du mérite personnel. Quant à ceux qui n'examinaient pas les choses d'aussi près, et l'on en pouvait compter un sur cent, la riche palatine du prince Jean et son manteau doublé de zibeline la plus riche, ses bottes de maroquin et ses éperons d'or, la grâce avec laquelle il gouvernait son palefroid, suffisaient pour lui attirer leurs bruyantes clameurs et leurs joyeux applaudissements. En caracolant gaiement autour de la lice, l'attention du prince fut attirée par le tumulte non encore apaisé et qu'avait excité l'ambitieuse prétention d'Isaac de se placer dans l'une des galeries supérieures. Son regard pénétrant lui fit aussitôt reconnaître le juif. Mais son regard s'arrêta plus agréablement encore sur la belle et jeune fille de Sion qui, effrayée du bruit, serrait étroitement le bras de son vieux père. Aux yeux d'un connaisseur tel que le prince Jean, Rebecca pouvait hardiment être mise en comparaison avec les plus fières beautés de la Grande-Bretagne. Sa taille exquise et divinement proportionnée était relevée encore par une sorte de costume oriental qu'elle portait suivant l'usage des femmes de sa nation. Son turban de soie jaune était assez approprié à son teint un peu brun. L'éclat de ses yeux, l'arc parfait de ses sourcils, son nez aquilin gracieusement formé, ses dents aussi blanches que des perles, et la profusion de ses cheveux noirs, dont les tresses descendaient en spirale sur un cou blanc comme neige et sur une gorge d'ivoire, à en juger du moins parce qu'une simarre de soie de Perse la plus riche en laissait apercevoir, tout en elle présentait l'assemblage de charme que ne le cédait à aucune des orgueilleuses beautés dont elle était environnée. Il est vrai que des agrafes d'or garnies de perles qui fermaient sa robe depuis le col jusqu'à la ceinture, les trois plus hautes avaient été ouvertes à cause de la chaleur, ce qui favorisait les regards et permettait de distinguer un collier de diamants et des boucles d'oreilles d'un très grand prix. Une plume d'autruche flottait sur son turban, où elle était fixée par une agrafe en brillant. Ce turban jaune, marque distinctive de la condition sociale de la belle juive, la rendait en ce moment l'objet de la moquerie et des sarcasmes des dames d'un rang élevé, quoiqu'elles portassent secrètement envie à des avantages qu'elles avaient l'air de mépriser. « Par la tête chauve d'Abraham, dit le prince Jean, cette juive que j'aperçois là-bas est le vrai modèle de la perfection, comme celle dont les charmes ensorcellent le roi le plus sage qui ait jamais vécu. Qu'en dis-tu, prieur Heimer ? Par le temple que mon frère Richard, plus prudent que ce roi, n'a pu recouvrer, c'est la fiancée du Cantique des Cantiques, la rose de Charonne, le lys de la vallée, répondit le prieur d'un air goguenard. Mais votre grâce doit songer que ce n'est qu'une juive. Oui, ajouta le prince Jean sans la regarder. Et voilà aussi le Mammon d'Iniquité, le marquis des Mares d'Argent, le baron des Bézans, qui se querellent pour une place avec des chiens qui n'ont pas un sou, dont les habits sont usés et déchirés, et dont les poches ne renferment pas une seule pièce marquée à la croix pour empêcher le diable d'y danser. Par le corps de Saint-Marc, mon prince des subsides et son aimable juive auront place dans la galerie. « Quelle est cette belle, Isaac ? » lui demanda-t-il. « Est-ce ta femme ou ta fille ? Dis-moi quelle est cette houerie orientale à qui tu donnes le bras ?»« C'est ma fille Rebecca, s'il plaît à votre grâce, » répondit Isaac en faisant un profond salut et sans paraître sentir l'ironie que cachaient les paroles obligeantes du prince. « Tu n'en es que plus sage !» dit Jean, avec un grand éclat de rire, auquel ses joyeux courtisans ne manquèrent pas de se joindre. « Mais fille ou femme, elle doit être préférée à cause de sa beauté et de ses mérites. « Qui est là-haut » continua-t-il en levant les yeux vers la galerie. « Des rustaux de Saxons. Ils doivent partager les hautes places de la synagogue avec ceux à qui la synagogue appartient plus légitimement. » Ceux qui occupaient cette galerie et à qui s'adressait ce discours injurieux et discourtois étaient la famille de Cédric le Saxon, avec celle de son allié Athelstan de Königsberg, personnage qui, descendu du dernier roi saxon d'Angleterre, était regardé avec le plus grand respect par tous les Saxons du nord de la Grande-Bretagne. Mais ce rejeton des rois avait hérité de la plupart des infirmités ou des faiblesses de sa race. Doué d'une figure prévenante, robuste et bien constituée, au printemps de son âge, il manquait d'expression dans les traits et dans le regard. Il avait la tête lourde, la démarche lente et massive, les mouvements d'une excessive lenteur. Il était si long à prendre une détermination que, lui appliquant le sobriquet donné à l'un de ses ancêtres, on le nommait généralement Athelstan l'Indolent. Ses amis, et il en avait un grand nombre, qui, de même que Cédric, lui étaient sincèrement dévoués, disaient que ce caractère paresseux lui venait non d'un manque de courage, mais d'un manque de résolution. D'autres prétendaient que son vice héréditaire d'ivrognerie avait obscurci ses facultés intellectuelles, naturellement peu vives, et que son courage passif, sa bonhomie, n'était plus que les restes d'un naturel qui aurait pu avoir son prix, mais dont tous les éléments généreux avaient dégénéré et s'étaient comme évanouis par suite d'une longue, d'une ignoble débauche. Ce fut à ce personnage tel que nous venons de le décrire que le prince Jean adressa son ordre impérieux de faire place à Isaac et à sa fille Rebecca. Athelstan, confondu par cet ordre, que les mœurs et les opinions de l'époque rendaient si outrageant, ne voulant pas obéir et ne sachant encore comment résister, n'opposa qu'une force d'inertie à la volonté du prince. Sans remuer, sans témoigner aucune velléité d'obéir, il ouvrit ses grands yeux gris et regarda le prince avec un étonnement qui avait quelque chose d'extrêmement risible, mais qui n'amusa nullement ce prince impétueux. « Ce porcher saxon dort ou ne veut pas m'entendre ? Pousse-le avec ta lance, de Bracy » dit-il à un chevalier qui caracolait près de lui, et chef d'une bande de francs compagnons ou condottieri, c'est-à-dire de mercenaires n'appartenant à aucune nation, mais qui s'attachaient pour un certain temps au service du prince qui les payait le plus libéralement. À cet ordre, il s'éleva quelques murmures, même parmi les chevaliers de la suite de Jean. Mais de Bracy, qui paraîta n'avait que peu de scrupules, leva sa lance et la dirigea vers la galerie. Avant qu'Athelstan l'Indolent eût recouvré la présence d'esprit nécessaire pour se garantir de la pointe de cette arme, il aurait exécuté l'ordre donné si Cédric, non moins prompt que son ami était lent, n'eût tiré avec la rapidité de l'éclair la courte épée qu'il portait, et d'un seul coup, n'eût écarté le fer de la lance dont le bois fut coupé. Le sang monta au visage du prince. Il proféra un de ses plus terribles jurons et s'apprêtait à donner des ordres conformes à sa violence. Mais il en fut détourné en partie par les courtisans qui se trouvaient autour de lui. et qui le conjurèrent de modérer son courroux, en partie par une acclamation générale, élevée par la foule à l'aspect de l'action courageuse de Cédric. Promenant alors autour de lui des yeux où se peignait la rage, comme pour choisir une victime qu'il pût sacrifier plus facilement, son regard tomba par hasard sur l'archer dont nous avons déjà parlé, et qui, peu inquiet de la colère du prince, continuait à applaudir. « Pourquoi ces applaudissements ?» lui demanda Jean. « J'applaudis toujours quand je vois donner un bon coup ou viser juste, » répondit le yeoman. « C'est cela, » répliqua le prince. « Tu pourrais donc toucher toi-même le but et planter ta flèche dans le flanc. En ma qualité d'archer et à une distance convenable, je n'hésiterai pas à en faire l'essai. » Et il toucherait le but de Wat Tyrell à 100 pas, dit une voix derrière lui, mais qu'il fut impossible de distinguer. Cette allusion au destin de Guillaume Leroux, son aïeul, exaspéra et effraya tout à la fois le prince. Mais il se contenta d'ordonner aux hommes d'armes qui entouraient la lice d'avoir l'œil sur ce fanfaron, en indiquant du geste l'archer. « Par Saint Grisel, ajouta-t-il, nous mettrons son habileté à l'épreuve, puisqu'il est si disposé à applaudir aux exploits des autres. » « Je ne m'y refuserai pas, » reprit l'archer avec un calme imperturbable. « Cependant, vous autres rustaux de Saxons, » dit le prince avec fierté, « levez-vous, car par la lumière du ciel, puisque je l'ai annoncé, le Juif s'assiera parmi vous. « Nullement, mon prince, s'il plaît à votre grâce, il ne nous convient pas de prendre rang parmi les puissants de la terre, » dit le Juif, dont l'ambition avait bien pu le porter à disputer la place avec le descendant ruiné de la famille de Montdidier, mais qui ne voulait nullement se commettre avec de riches Saxons. « Debout, chien d'infidèle, quand je te le commande !» s'écria Jean. « Ou après t'avoir fait arracher ta peau noire, je la fais tanner pour recouvrir ma selle !» Ne pouvant résister à cet ordre, le Juif commença à monter lentement les degrés qui menaient à la galerie. « Voyons qui osera l'arrêter !» ajouta le prince en attachant ses regards sur Cédric, dont l'attitude annonçait l'intention de précipiter le Juif du haut de la galerie. Le fou Vamba prévint la catastrophe en se précipitant entre son maître et Isaac, et en s'écriant en réponse au défi du prince. « Parbleu, ce sera moi !» Puis, tirant de dessous son manteau une énorme tranche de jambon, que la crainte que la durée du tournoi ne dépassât la limite qu'il posait à son abstinence l'avait probablement engagé à prendre, il la mit sous la barbe du Juif en même temps qu'il brandissait son sabre de bois au-dessus de sa tête. Celui-ci, craignant le contact de l'objet le plus en horreur parmi les 12 tribus, fit un pas en arrière. Mais le pied lui manqua et il roula de degré en degré jusqu'au bas de l'escalier. Cet accident excita un grand éclat de rire parmi tous les spectateurs, et le prince Jean, qui n'en rit pas moins que les autres, oublia sa colère. « Accordez-moi le prix, cousin prince, » dit Vamba. « J'ai vaincu mon ennemi en champ clos avec l'épée et le bouclier. » En parlant ainsi, le fou montrait d'une main le jambon et de l'autre son sabre de bois. « Qui es-tu, noble champion ?» dit le prince, riant encore. « Fou par droit de naissance, » répondit le bouffon. « Je suis Vamba, fils de Witless, fils de Witterbrain, qui était le fils d'un alderman. »« Que l'on fasse place aux Juifs dans la galerie inférieure, » dit le prince, qui saisit sans doute avec empressement un prétexte pour révoquer ses premiers ordres. « Il serait injuste de placer le vaincu au même rang que le vainqueur. »« Et surtout de mettre un Juif à côté d'un jambon ?» reprit Vamba. « Grand merci, brave garçon. Tu m'as fait rire. »« Je veux te récompenser, » lui répondit le prince. « Approche, frère Isaac. Prête-moi une poignée de besante. » Comme le Juif, étourdi de cette requête à laquelle il n'osait ni se refuser ni obéir, fouillait dans son sac, calculant peut-être à combien de pièces pourrait être évaluée une poignée, le prince, impatient de ce retard, le lui arracha, y mit la main et, après avoir jeté à Vamba une couple de pièces d'or, continua sa ronde en distribuant le surplus à la foule, laissant le Juif exposé à la risée de ceux qui l'entouraient et qui applaudissaient le prince comme s'il eût fait une action digne d'éloge.